Chapitre 30. Dante se réveilla au son des débroussailleuses et des tailleurs, et d'une conversation enjouée qui avait bien du mal à couvrir le bruit des machines. Il descendit l'escalier et jeta un œil par la fenêtre. Il y avait trois hommes dans le jardin, un qui conduisait une tondeuse autoportée, un autre qui maniait un coupe-bordure et un troisième, un noir particulièrement musclé vêtu d'un débardeur, qui taillait les hortensias, les bougainvilliers et les rosiers devant le porche. Le vacarme extérieur contrastait avec le silence monacal qui régnait à l'intérieur. Nevea était partie à 6 heures du matin, Romane vers 10 heures, et Dante s'était levé comme une fleur à midi. Il saisit une bouteille d'eau et se dirigea vers la porte. Il avait pas mal de route. Romane avait récupéré une nouvelle voiture de location après avoir expliqué à la police que l'autre avait été volée et détruite du côté de Lucy Boulevard. Dante avait été scotché par l'aisance avec laquelle son frère était capable de mentir aux flics. Chaque fois que lui avait affaire à eux, il ne pouvait s'empêcher de bégayer. D'ailleurs, Getty s'était un jour moqué de lui en lui disant que ses parents auraient dû l'appeler Porky Pig. Avec le recul, il songea que c'était le genre d'anecdote qui donnait raison à Romane. Getty n'avait jamais été son ami. Mais si Dante était honnête avec lui-même, et pourquoi pas après tout, il n'y avait personne pour lire dans ses pensées, la réciproque aussi était vraie. S'il avait été l'ami de Getty, il n'aurait pas couché avec Cassidy derrière son dos. Mais contrairement à l'ancien indique, Cassidy et Dante étaient bien vivants. Alors autant laisser la nature de cette amitié, qui n'en était pas une, finir dans le dépotoir de l'histoire. Dante ferma la porte et descendit les marches du perron. Alors qu'il se dirigeait vers la Challenger, il croisa le regard du jardinier en débardeur. « Bonjour !» le salua celui-ci, à genoux devant un rosier. « Vous êtes Monsieur Carothers ?»« Non, ça, c'est mon père. Et mon frère, accessoirement. D'ailleurs, j'imagine que c'est lui qui vous a appelé. Avant, mon père s'occupait du jardin, mais Romane a évoqué l'idée de faire appel à des professionnels. » L'autre se redressa et épousseta son pantalon avec des mains grosses comme des raquettes de tennis. « Très bien. Dans ce cas, vous pourrez dire à votre frère qu'il peut utiliser notre application pour nous régler le solde. Il nous a versé un acompte, mais on devrait avoir fini aujourd'hui, donc je suis pas sûr de le recroiser. » L'homme tendit une de ses énormes pattes d'ours à Dante, qui la saisit. « Ike Randolph », se présenta le jardinier. « Dante Carothers. » « Oh, il est vachement beau votre tatouage, là. Celui avec le mec et la petite fille. » Ike contracta son biceps et le portrait sembla prendre vie. On y voyait un homme noir aux côtés d'une fillette métisse. Tous les deux avaient un sourire aux lèvres et tournaient la tête vers la droite, comme s'ils admiraient le soleil couchant. Lorsque le jardinier plia le bras, le sourire des deux personnages s'élargit. « Merci, » fit Ike. « Je l'ai fait faire par un tatoueur de Gloucester. C'est mon fils et ma petite fille. » Ils ont l'air heureux, en tout cas. Le visage du paysagiste s'assombrit. Il l'était. Ah, merde. Je suis vraiment désolé, j'aurais pas dû dire ça. Pardon. Vous n'avez pas à être désolé. Vous ne pouviez pas savoir. Mon fils est décédé, mais ma petite fille habite avec nous maintenant. C'est son portrait craché. Et ça, juste en dessous, c'est quoi? « Pardon, mec, vous êtes pas un bouquin, je devrais pas essayer de vous lire. » Ike regarda les mots tatoués sous le double portrait. « Ce sont les paroles d'une chanson que mon meilleur ami adorait. Lui aussi, il est décédé. » « Décidément, j'enchaîne les boulettes. Pardon. » « Y a pas de mal. Vous avez dit qu'avant, votre père s'occupait du jardin. Il lui est arrivé quelque chose ?»« Ouais, il a eu un accident. Il est dans le coma. » D'après les médecins, il pourrait se réveiller la semaine prochaine, comme pas se réveiller du tout. Le pronostic est pas génial, quoi. Mais il est encore là. C'est une bonne chose, croyez-moi. Au moins, il n'a plus à se faire du souci pour moi. Mon frère a sa propre boîte, ma sœur gère le crématorium Carothers, et moi, je suis le raté de la famille. Il y avait quelque chose de cathartique à parler de tout cela à quelqu'un, même si c'était cet inconnu aux mains terrifiantes. Ike serra les poings. Et Dante ne put s'empêcher de reculer d'un pas. Si vous le pensez vraiment, vous devriez parler à votre frère et à votre sœur. Tant qu'on n'est pas 6 pieds sous terre, il est jamais trop tard pour changer les choses. Mais le temps file plus vite qu'on le pense. Alors parlez-leur. avant qu'ils vous rattrapent. Je suis sûr que c'est pas l'image qu'ils ont de vous. Quoi qu'il en soit, n'attendez pas. N'attendez pas. D'accord. Je répéterai à mon frère ce que vous m'avez dit. Et merci. Avec plaisir. Dante fit demi-tour et salua Ike et ses employés avant de s'éloigner. S'il me bouscule, c'est moi qui lui demanderai pardon, songea Dante. Ce mec est flippant. Alors qu'il se dirigeait vers l'autoroute, il dépassa deux motels miteux en périphérie de la ville. L'endroit parfait pour se faire assassiner, murmura-t-il en sortant son téléphone de sa poche. Il appela Cassidy.
Coucou,
fit-elle en décrochant. Salut Cass, je suis en route. Tu veux que je nous prenne des pizzas ou un truc comme ça? Silence. Tu m'entends? S'inquiéta Dante. Cassidy prit une grande inspiration.
Je suis plus à Aruna.
Dante écrasa la pédale de frein. Il se rangea sur le bas-côté, à quelques dizaines de mètres de la bretelle d'accès à l'autoroute. De la main droite, il agrippa le volant. De la gauche, il serra son téléphone jusqu'à presque le broyer, avant de le rapprocher de son oreille. T'es où? Une pause, une autre inspiration.
Chez ma mère,
murmura la jeune femme. Dante jeta le portable sur le siège passager et descendit de la voiture. Il fit le tour, se pencha et rendit son dîner de la veille, ainsi qu'un demi-litre de bourbon et les quelques cachets qu'il avait pris au réveil. Le bourbon fut le pire et lui brûla tout l'œsophage comme de la lave en fusion. Il s'essuya la bouche du dos de la main, remonta dans la Challenger et récupéra le téléphone sur le siège. « Cassidy, tu dois quitter la ville. Il ne faut surtout pas qu'on te voie. » Il avait parlé d'une voix douce, mais ferme, en tâchant d'insuffler un maximum de gravité dans chacun de ses mots. Mais dès que la jeune femme répondit, il comprit qu'ils étaient tous foutus.
« J'ai caché la voiture derrière la maison de maman. Je me sentais seul, dit. Je connaissais personne. Ma mère dit que la police pourra sûrement nous protéger. En plus, tu as fait ce que tu as fait parce que j'étais en danger. Ce sera considéré comme de la légitime défense. »
Dante écrasa le front sur le volant. Il y avait tellement de choses qu'il aurait voulu dire à Cassidy, mais qu'il ne pouvait pas prendre le risque d'énoncer sur une ligne téléphonique. La liste d'idées toutes plus mauvaises les unes que les autres qu'elle venait d'énumérer le faisait saigner des oreilles. Cacher cette voiture à l'aileron parfaitement reconnaissable derrière la maison de sa mère? Aller voir la police? Avouer qu'il avait frappé un homme à la tête avec un marteau? Que son frère avait enfermé Getty dans une boîte de crémation avant de le brûler vif? Qu'ils avaient ensuite incinéré le cadavre de Splody? Il ne pensait pas que Cassidy était stupide. Elle ne l'était pas. Non, c'était simplement une jeune femme qui n'avait jamais eu à se soucier des conséquences. Comme Dante, elle venait d'une famille de la classe moyenne supérieure, mais contrairement à lui, ses parents n'avaient jamais eu besoin de se serrer la ceinture ou de racler les fonds de tiroir pour régler les factures. Beaucoup à Jefferson Run partaient du principe que les Carruthers avaient toujours eu leur grande maison dans un quartier huppé de la ville. La réalité était tout autre. Dante avait de vagues souvenirs de devoir manger du corned beef et des saucisses industrielles au petit-déjeuner, au déjeuner et au dîner. Cassidy, elle, n'avait jamais eu à endurer un tel supplice culinaire. Sa mère était retraitée de l'université de Prosser State, où elle avait été professeure d'anglais vacataire. Son père enseignait la musique à Philadelphie, et d'après Cassidy, il continuait à jouer un rôle important dans sa vie, malgré la distance. En revanche, comment elle s'était retrouvée avec Getty demeurait un mystère. Dante releva la tête. Cassidy ne comprenait pas. Ce monde dans lequel ils évoluaient désormais, où commettre un meurtre était aussi banal qu'enfiler une paire de chaussures, où la violence vous tombait dessus sans prévenir comme une averse de grêle, où lui et son frère avaient dû tuer pour se protéger, et où ils risquaient désormais de mourir parce qu'une pauvre fille n'avait aucun instinct de survie. Ce monde lui était totalement étranger. Elle était trop tendre pour y avoir sa place. « Écoute-moi, Cass. Il faut que tu retournes au motel. Embrasse ta mère et va-t'en, je t'en supplie. T'es pas en sécurité ici. »
Ou alors, peut-être que je pourrais juste...
S'ils te voient, ils te tueront, la coupa Dante. Et ensuite, ils nous tueront tous. Arrête de discuter et fais ce que je te dis.
Je rigole pas. Ils hésiteront pas une seconde. Il faut que tu partes. Maintenant.
Il l'entendait respirer. De courtes inspirations qui ressemblaient à de petits sifflements.
Bon. D'accord.
Céda-t-elle.
Tu me rejoins là-bas ?
Oui. Envoie-moi un message dès que tu seras enfermé dans la chambre et je te promets que je viendrai te retrouver. Un nouveau silence, éloquent. Dante savait qu'elle ne voulait pas partir. Il songea que Cassidy vivait dans sa propre petite bulle rose où il ne pouvait rien lui arriver. Elle était incapable de concevoir que quelqu'un puisse lui vouloir du mal. Cette fois encore, lorsque les Bibibi s'attaqueraient à elle, elle hurlerait comme elle l'avait fait cette nuit-là. Un cri primal et déchirant pour demander à l'univers pourquoi il ne réagissait pas. Et l'univers, comme toujours, se montrerait indifférent. Cass ?
Je pars. Je pars. Je dis juste au revoir à ma mère.
D'accord, ma chérie. Je te retrouverai au motel. Envoie-moi un message quand tu seras arrivé. J'apporterai de quoi s'amuser et je passerai la nuit là-bas avec toi, d'accord ?
D'accord.
Ah oui, j'allais oublier. N'appelle surtout pas la police, c'est pas le bon moment. On a un plan pour régler cette histoire, mais ça marchera pas si les flics s'en mêlent.
D'accord.
Dante s'humecta les lèvres. Pense bien au message quand tu seras dans la chambre, hein ?
D'accord. À plus.
À plus. Elle raccrocha, et Dante jeta à nouveau son portable sur le siège passager et s'agrippa au volant comme à une bouée de sauvetage. À côté de lui, les voitures filaient sur la chaussée. Il devait prévenir Roman. Il n'avait pas le choix, et pourtant, il n'arrivait pas à se convaincre de lâcher le volant pour appeler son frère. Était-ce parce qu'il se rappelait l'avoir vu enfermer Getty dans une boîte avant de le pousser dans le four ? Roman l'avait fait pour protéger leur famille. Dante savait que son frère l'aimait. Il savait qu'il aimait leur père et qu'il aimait Nevea. Mais il savait aussi qu'on pouvait faire des choses terribles au nom de l'amour. Des choses abominables. Il attendit une éclaircie dans la circulation pour faire demi-tour et reprendre le chemin de la maison. Là-bas, il patienterait le temps que Cassidy l'appelle pour lui dire qu'elle était de retour à Aruna. Il patienterait toute la nuit s'il le fallait. Il scruterait la pelouse fraîchement tondue par la fenêtre et lorsqu'elle disparaîtrait peu à peu dans l'obscurité naissante, il continuerait à espérer que Cassidy aurait le bon sens de retourner au motel. Il espérait qu'elle le surprendrait. En revanche, il ne se voyait pas annoncer à Roman qu'elle était de retour à Jefferson Run. Adossé à sa nouvelle Chevrolet Camaro de location sur le parking de l'hôtel de ville, Roman essayait de repérer Jealousy parmi les groupes d'employés municipaux qui quittaient la bâtisse pour la pause déjeuner. Avec son épaisse tignasse, elle ne passait pas inaperçue, et pourtant, Roman ne la voyait toujours pas. Lorsque les derniers employés furent sortis, il retourna dans sa voiture pour l'appeler. Il avait conscience que passer un coup de téléphone à la personne qu'on fréquentait était désormais considéré comme ringard, mais elle ne répondait pas à ses textos. Une tonalité, deux, trois. Roman s'apprêtait à raccrocher lorsqu'elle répondit enfin. « Bonjour, » dit-il.
« Bonjour. »
« Je t'ai envoyé des messages. »
« Je sais. »
« Il y a quelque chose qui va pas ?» Quand elle reprit la parole, il perçut les larmes dans sa voix.
« Tu m'as menti. »«
Hein ? Mais non, je t'assure que je suis pas marié. » »«
Pas là-dessus. Quand je t'ai demandé si tu travaillais pour mes frères, tu m'as répondu que tu leur donnais seulement des conseils pour les aider à changer de vie, pas vrai ? C'est ce que tu m'as dit. »«
Oui, et c'est ce que je... » »«
Tracy m'a dit que tu bossais pour eux. Il m'a expliqué que tu blanchissais leur argent et que tu leur avais déjà fait gagner plus de pognon qu'ils en avaient jamais vu de toute leur vie avec leur trafic. » Il m'a aussi dit que Terence voulait t'intégrer à leur gang.
Elle pleurait à gros sanglots à présent, et Roman sentit son cœur se briser en mille morceaux. Écoute, Jay, je peux tout t'expliquer. Je te jure que...
Je t'ai demandé une chose, c'est de me dire la vérité. C'est tout. Quand je pense que j'étais en train de tomber amoureuse de toi alors que tu me mentais en me regardant droit dans les yeux. Quelle conne ! Ne m'appelle plus. Ne m'envoie plus de messages.
Écoute-moi, Jay. C'est vrai que j'ai fait ça pour tes frères, mais c'est uniquement pour qu'ils puissent développer une activité légale. J'essaie vraiment de les aider à laisser la rue derrière eux.
C'est mes frangins et je les aime. Mais je veux pas que le sang qu'ils ont sur les mains se retrouve sur les miennes par ton intermédiaire. Je veux pas tout ça dans ma vie, Roman. Et du coup, t'y as pas ta place non plus. Pas dans ces conditions. Ne cherche pas à me recontacter, s'il te plaît. »
Et elle raccrocha. Roman secoua la tête et se tapa le front avec son téléphone. Que Tranquille ne l'apprécie pas n'était pas une découverte, mais qu'il aille jusqu'à sacrifier le bonheur de sa propre sœur dans le seul but de lui nuire, c'était minable. Roman leva les yeux et observa le troisième étage de l'hôtel de ville. Jealousy était là-haut, quelque part, en pleurs parce qu'il lui avait menti. Sauf que, des mensonges, il était prêt à en proférer bien d'autres pour sauver sa famille et pour protéger Jay. Parce que lui aussi, il était en train de tomber amoureux d'elle. Et Tranquille venait de tout faire voler en éclats, par pure méchanceté. « Je vais t'en donner de la méchanceté, moi, enculé !» maugréa Roman, et il démarra. Il se rendit au Cooper's Rest et se percha sur un tabouret à l'extrémité du comptoir. C'était encore la pause de midi et le bar était rempli d'employés et de clients du centre commercial voisin. Il y avait également quelques piliers qui avaient leur siège attitré, comme s'ils avaient été placés là par décret royal. Roman commanda un whisky sec et le sirota en réfléchissant à un moyen de renouer le contact avec Jealousy sans passer pour un gros lourd. Il comprenait qu'elle avait besoin de respirer. Mais il savait aussi qu'elle avait encore des sentiments pour lui. Et ça, il comptait bien s'y accrocher. Parce qu'il voulait avoir l'occasion de lui dire combien elle comptait pour lui. Il y avait eu des périodes après la disparition de sa mère où il s'était demandé s'il méritait d'être aimé. Entre les rencontres d'un soir et les amourettes entre collègues, ces périodes s'étaient multipliées. Les années avaient filé entre ses doigts. Et il avait fini par conclure qu'il n'était pas fait pour l'amour. Jusqu'à ce qu'il rencontre Jealousy. Une femme qui l'acceptait tel qu'il était, qui lui tenait tête, qui le faisait sourire. Et il était censé tirer un trait dessus à cause de la mesquinerie d'un demi-frère jaloux? Certainement pas. Il observa par la baie vitrée les voitures qui circulaient dans la rue. Elles étaient peu nombreuses dans ce quartier. Il faut dire que les confins de Jefferson Run étaient les endroits où le syndrome de la ville mourante était le plus flagrant. Le Skids, la zone artisanale, l'extrémité de Sycamore Avenue. Des canaris qui s'asphyxiaient dans leurs cages sans que les mineurs prêtent attention à eux. Roman termina son verre et en commanda un second. Il mourait d'envie de récupérer un pistolet, d'aller trouver Torrent et Tranquille et de vider un chargeur sur eux. Mais il but une autre gorgée de whisky et réprima cette pulsion. Car c'était une idée stupide. Roman n'était pas un as de la gâchette. En face à face contre les frères Gilchrist, il n'aurait aucune chance. Il avait besoin de plus d'armes. Et il était sur le point de les obtenir. Dans le bar, les clients continuaient à affluer pour le déjeuner. À un moment, deux hommes de Torrent passèrent à côté de lui et le saluèrent d'un hochement de tête avant d'aller s'installer sur une banquette au fond de la salle. Roman termina son verre, posa un billet de $50 sur le comptoir et se dirigea vers la sortie. Il venait de se faire larguer par Jealousy et il n'était certainement pas d'humeur à tailler le bout de gras avec deux sous-fifres des BBB. Pas à cet instant. Alors qu'il agrippait la poignée en cuivre poli par des milliers de mains, son cœur fit un bond de lapin apeuré dans sa poitrine. La Honda de Splody venait de passer devant le bar et se dirigeait vers l'autre extrémité de Sycamore Avenue, en plein territoire des BBB. Roman quitta le bar et se força à marcher d'un pas tranquille jusqu'à sa voiture. Une fois au volant, il s'empressa d'appeler Dante.
« Quoi de neuf ?»
lui demanda celui-ci en décrochant. « Elle est de retour. Est-ce qu'elle t'a contacté ? Est-ce que c'est toi qui lui as dit qu'elle pouvait revenir ? Parce que c'est vraiment pas le moment. »
« Non, Rome. Je lui ai rien dit du tout. Comment tu sais que c'est elle ?»«
À ton avis, elle est au volant de la bagnole, putain !»«
Merde, je savais pas. Je te jure que j'y suis pour rien. »
fit Dante, d'une voix mélodieuse que Roman reconnut immédiatement. C'était celle que son frère avait prise la première fois que leur père avait retrouvé de l'herbe dans son sac d'école. « Tu lui as pas dit de revenir, mais est-ce que tu savais qu'elle était de retour ?» insista Roman, même s'il ne s'agissait pas vraiment d'une question, puisqu'il connaissait déjà la réponse. Il n'était pas en colère, mais un profond ressentiment bouillonnait en lui et remontait petit à petit des pieds à sa tête. Comment Dante avait-il pu se montrer aussi imprudent, aussi insensé, aussi imbécile ?
Je savais pas qu'elle comptait revenir. J'ai cru apercevoir la voiture ce matin, mais j'étais pas sûr.
Répondit Dante, sur le même ton. Roman décida de passer outre. Ce que savait Dante, et quand il l'avait su, n'avait plus aucune importance. La seule chose qui comptait désormais, c'était que Cassidy quitte Jefferson Run au plus vite. Car si par malheur un membre des BBB croisait sa route, c'était l'aller simple à la ferme pour tout le monde. « Est-ce que tu peux l'appeler ?» fit Roman. « Lui dire de partir immédiatement. »«
Je vais essayer. »
soupira Dante. « Non, non, tu ne vas pas essayer, tu vas le faire. » Il mit fin à la communication et appela Khalil dans la foulée.
« Ben sana in corpore sano. »
cita Khalil, fidèle à ses habitudes. « T'es dans le coin ?»«
Ouais, je surveille notre problème. »
Retrouve-moi sur le gros chantier du Skids. Burnt Mill Road. L'entrepôt qui va être démoli. Garde-toi un peu plus loin et...
Je sais comment me rendre quelque part sans me faire repérer, Rome.
Le coupa Khalil. Et encore une fois, Roman songea qu'il ne devait surtout jamais se mettre cet ami à dos. Roman pénétra dans l'entrepôt et trouva Khalil assis sur une pile de palettes. Il portait une veste en cuir bleu, un jean et une paire de chaussures noires. Roman, qui avait progressé en la matière, remarqua le renflement au niveau du flanc de son ami et devina qu'il s'agissait d'un pistolet dans un holster d'épaule. Il savait qu'il avait au moins deux autres armes à feu sur lui et un poignard. « Alors, c'est quoi les bails ?» demanda Khalil. « Je précise que c'est une blague, hein. Je déteste les gens qui disent ça. » « Tu te souviens de la fille dont je t'avais parlé ? La nana de Getty ?»« Cassidy ? Ouais, ouais. Elle est de retour. » Je viens d'apercevoir au volant de la voiture de Splody. Pas bon, ça, commenta Khalil. Effectivement, si Torrent la croise dans cette bagnole, il saura qu'on a menti et il nous tuera tous les trois, Nevea, Dante et moi. Il essaiera, rectifia Khalil en sautant de sa pile de palettes. Même toi, tu pourras pas nous protéger en permanence. J'ai eu Dante au téléphone. Je lui ai dit qu'il devait absolument la convaincre de foutre le camp. Mais... Tu penses qu'il le fera pas? Je sais pas. Je sais pas s'il en sera capable. Bon, alors c'est quoi l'idée? Roman s'appuya contre les palettes. L'entrepôt n'était plus qu'une coquille vide. Les câbles électriques et les poutres métalliques avaient déjà été envoyés chez le ferrailleur. Le projet de revitalisation du Skids était l'illustration parfaite de l'adage « détruire pour mieux reconstruire ». Roman n'était pas nécessairement adepte de cette doctrine, qu'il rapprochait de l'expérience de pensée philosophique du bateau de Thésée. On a beau reconstruire quelque chose à l'identique, ce n'est jamais tout à fait pareil. Et accessoirement, s'il comptait détruire les BBB, ce n'était pas pour les reconstruire, mais pour les enterrer une bonne fois pour toutes. Ce qu'il ne pourrait pas faire s'il se faisait dévorer par les pitbulls de Torrent. « Je vais te donner une description de la voiture, » dit Roman. « Tu vas retrouver cette fille et tu vas lui parler. Je veux que tu lui fasses peur. » Qu'elle soit tellement terrifiée à l'idée de croiser la route de Torrent qu'elle quitte la ville sans demander son reste. Et si elle refuse? Si elle veut rien entendre? Parce que bon, je te rappelle qu'elle t'a vu brûler vif son petit copain. En matière d'arguments, on fait difficilement plus convaincant. Alors je suis pas sûr de faire mieux. Roman baissa la tête. La poussière de béton qui recouvrait le sol lui fit penser à descendre. Descendre aussi froide qu'une tombe. Il faut qu'elle disparaisse, lâcha-t-il. D'une manière ou d'une autre. Khalil se tourna de manière à lui faire face. Donc, que les choses soient bien claires. Si jamais elle ne veut rien entendre et qu'elle refuse de partir, tu veux quand même qu'elle disparaisse. C'est bien ça. Roman se cacha un instant la bouche avec la main. Un mouvement inconscient, son corps qui cherchait à empêcher quiconque d'entendre les mots qu'il allait formuler. Elle peut pas rester ici. Alors, quoi que t'aies à faire pour qu'elle n'y soit plus. Roman s'interrompit. Dante avait sauvé la vie de cette fille. Dante, que l'idée d'écraser un insecte révulsait, avait saisi un marteau pour faire éclater la tête de Splody comme un melon trop mûr. Roman espérait que Cassidy aurait assez de jugeote pour se sauver elle-même. Dans sa tête, une petite voix claironnait qu'il était sur le point de traverser le Rubicon et qu'il y avait certaines limites qu'on ne pouvait pas franchir. Mais c'était un mensonge. En réalité, il n'y avait pas de limite. Soit Cassidy quittait la ville, soit Roman, sa sœur et son frère se faisaient tuer. Soit Getty se faisait brûler vif, soit Dante mourait. Soit Roman faisait le nécessaire, soit sa famille ne serait jamais en sécurité. Il n'y avait pas de limite.
Il n'y avait que des choix. Nous ou eux. Or, ce choix, il l'avait déjà fait depuis longtemps. « Fais-le, » conclut-il.